Bonjour, content de vous revoir. Mais c'est les salutations de l'Angleterre. Nous allons lire, donc on va aujourd'hui en fait regarder trois passages ensemble en fait. Donc le psaume 1, Jérémie chapitre 17 et Jérémie chapitre 2. Donc il faudra que vous gardiez une main dans votre Bible soit sur Jérémie, soit sur les psaumes. Donc le psaume 1, Jérémie 17, on va lire les versets 5 à 8. Et Jérémie 2, on va juste lire le verset 13. Donc le psaume 1. Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs, et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel, et qui la médite jour et nuit. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau, qui donne son fruit en sa saison, et dont le feuillage ne se flétrit point. Tout ce qu'il fait lui réussit. Il n'en est pas ainsi des méchants. Ils sont comme de la paille que le vent dissipe. C'est pourquoi les méchants ne résistent pas au jour du jugement, ni les pécheurs dans l'assemblée des justes. Car l'Éternel connaît la voie des justes, et la voie des pécheurs mène à la ruine. Donc maintenant nous allons regarder Jérémie, au chapitre 17, et le verset 5, à partir du verset 5 jusqu'au verset 8. Et vous verrez tout de suite la similitude entre ces passages. Jérémie 17, verset 5. Ainsi parle l'Éternel. Maudit soit l'homme qui se confie dans l'homme, et qui prend sa chair pour son appui, et qui détourne son cœur de l'Éternel. Il est comme un misérable dans le désert, et il ne voit point arriver le bonheur. Il habite les lieux brûlés du désert, une terre salée et sans habitants. Béni soit l'homme qui se confie dans l'Éternel, et dont l'Éternel est l'espérance. Il est comme un arbre planté près des eaux, et qui étend ses racines vers le courant. Il n'aperçoit point la chaleur quand elle vient, et son feuillage reste vert. Dans l'année de la sécheresse, il n'a point de crainte, et il ne cesse de porter du fruit. Et enfin, juste un dernier passage, donc toujours dans Jérémie, au chapitre 2, verset 13, juste un verset. Car mon peuple a commis un double péché. Ils m'ont abandonné, moi qui suis une source d'eau vive, pour se creuser des citernes crevassées qui ne retiennent pas l'eau. Donc, comme je le disais, on se rend compte rapidement que le psaume 1 et Jérémie 17, les passages que j'ai lus, sont très similaires, et même Jérémie 2, 13, il est plus court, mais il développe un thème qui est le même. Et en fait, donc, ces passages sont marqués par un contraste. Ils mettent en avant des notions qui s'opposent fortement. Et en fait, ils reprennent ce que la Bible expose à longueur de pages. C'est, donc, de la Genèse jusqu'à l'Apocalypse, c'est l'opposition entre la voix de Dieu et la voix des hommes, entre le péché et la grâce, entre le peuple de Dieu et le monde. Et en fait, la Bible ne présente que deux choix. Il n'y a jamais de sorte voie médiane. Il n'y a que deux choix, deux voies, la voie de Dieu ou la voie du monde. Et il y a un seul chemin, une seule vérité, une seule source de vie. C'est Christ, et on ne vit en Père que par lui. Et il y a un seul nom sous le ciel par lequel nous puissions être sauvés. C'est le nom de Christ. Donc ces trois textes, ils montrent cette opposition exactement. Ils nous présentent en fait deux sortes de sources, deux sortes d'hommes et deux sortes de destinées. Donc, deux sortes de sources, deux sortes d'hommes et deux sortes de destinées. Et ça va être donc le plan de mon message ce matin. Donc deux sortes de sources. Donc le passage est décrit deux sortes de choses dans lesquelles les hommes peuvent venir puiser ou s'alimenter. Et donc les passages mélangent un langage imagé, par exemple une source d'eau vive, avec un langage plus concret, par exemple le conseil des méchants. Et on voit donc que les hommes ont le choix de puiser dans une de ces deux sources. Et en fait, ces deux sources, elles se résument à ceci. D'un côté, la source de l'homme, de l'autre côté, la source de l'Éternel. Et donc, regardons tout d'abord l'homme. Jérémie 17,5 nous dit « Maudit soit l'homme qui se confie dans l'homme ». Et se confier dans l'homme, c'est la croyance dominante de notre génération. Et on appelle cela sous un terme élogieux, qui est le terme d'humanisme. Et le slogan de l'humanisme, c'est un... On pourrait citer cela, c'est souvent cité, une citation d'un philosophe grec qui disait que l'homme est la mesure de toute chose. Donc l'homme est la mesure de toute chose. Et ça veut bien dire ce que ça veut dire, c'est-à-dire que l'homme est la vérité ultime, il n'y a pas de Dieu au-dessus de l'homme, et en fait l'homme est en quelque sorte fait Dieu. L'homme est la mesure de toute chose. Alors l'humanisme se présente évidemment sous des dehors généreux, bienveillants, égalitaires, on dit même aujourd'hui inclusif. Mais en fait, c'est une fausse religion qui nie l'existence de Dieu et qui met l'homme à la place de Dieu. Et la confiance dans l'homme, elle se manifeste de trois manières au moins. Et une première manière, c'est que l'homme se confie en lui-même. L'homme se confie en lui-même, dans ses propres forces. Il y a un célèbre poème en anglais qui est intitulé Invictus. Et vous avez peut-être entendu parler des jeux olympiques pour les handicapés qui ont été faits par les Anglais. D'ailleurs, c'est par le prince Harry. Et donc, ils s'appellent les jeux Invictus. Et Invictus, ça veut dire invaincu ou invincible. C'est un très très beau poème. Ce poème, il glorifie le courage d'un homme devant l'adversité. Et il se termine par ces paroles que vous avez peut-être déjà entendues. Je suis le maître de mon destin, je suis le capitaine de mon âme. Je suis le maître de mon destin, je suis le capitaine de mon âme. C'est très beau, ça capture parfaitement la philosophie de notre époque, c'est-à-dire que l'homme est capable de tout, vous voyez des fusées sur la Lune, il a vaincu le Covid, il va vaincre le réchauffement climatique. Il est maître de son destin et capitaine de son âme. Et donc je disais c'est très beau, mais c'est aussi très faux, parce qu'en fait l'homme n'est pas maître de son destin, mais l'Éternel est maître de son destin. Et l'homme, malheureusement, n'est pas le capitaine de son âme, mais à moins qu'il ne soit sauvé, Satan est le capitaine de son âme. C'est ce que nous dit Jean 8,44, le Seigneur Jésus-Christ lui-même, vous avez pour père le diable, et vous voulez accomplir les désirs de votre père, et c'est ce qu'il dit à tous les hommes qui ne sont pas régénérés. Et dans les religions du monde, les hommes se confient en eux-mêmes pour leur salut. Mais maudit soit-il, de se confier en eux-mêmes pour leur salut, car maudit soit l'homme qui se confie dans l'homme. Une deuxième manière de se confier dans l'homme, c'est de se confier dans un homme, un leader charismatique. Évidemment, dans cette période d'élection, il se trouve qu'aujourd'hui, dans notre beau pays, vous votez. Eh bien, c'est quelque chose qui revient à la surface. Il y a des hommes comme ça qui apparaissent et les gens vont se confier dans cet homme. C'est lui qui va nous sortir de tous nos problèmes. Et nous savons très bien que ce n'est jamais le cas. Il y a vraiment une idolâtrie de la part de certains pour tel ou tel homme politique. Mais la parole de Dieu nous dit dans le psaume 146, versets 3 et 4, elle nous dit « Ne vous confiez pas dans les grands, c'est-à-dire dans les leaders, ne vous confiez pas dans les grands, dans aucun fils d'homme qui ne saurait délivrer. Son souffle s'en va, il retourne à la terre et en ce jour-là, ses desseins périssent. » Il y a une troisième manière de se confier dans l'homme, c'est de se confier dans ce que la parole appelle le conseil des hommes. Le psaume 1 nous dit « Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs. » Donc méchant, pécheur, moqueur, ce sont trois termes qui désignent le monde, c'est-à-dire l'humanité sans Dieu. Et frères et sœurs, auprès de qui allons-nous chercher conseil ? Si par exemple les choses vont mal, dans votre couple, le monde vous conseillera le divorce. Et si vous avez des relations difficiles au travail, on vous dira « ne te laisse pas faire ». Et si une jeune fille tombe enceinte en dehors du mariage, on lui dira « fais-toi avorter ». Et on finit, nous-mêmes les chrétiens finissons par nous comporter comme celui auprès de qui on est allé chercher conseil. On s'arrête sur la voie des pécheurs, on s'assied en compagnie des moqueurs. Et après avoir pris conseil, on s'installe avec ceux qui ont donné conseil, on adopte leur comportement, on devient méchant, pécheur et moqueur. Et ce n'est pas que le conseil des hommes soit mauvais en toute chose. Quand il s'agit de choses matérielles, l'homme qui a été doté par Dieu d'une intelligence remarquable n'a pas son pareil pour construire un pont, envoyer une fusée sur la Lune, découvrir un nouveau traitement contre la maladie. Et le conseil d'un cardiologue ou d'un ingénieur sont souvent le meilleur qui soit dans les domaines, dans leurs domaines respectifs. Mais quand il s'agit du choix entre le bien et le mal, de la sagesse selon Dieu et de la connaissance de l'Éternel, alors le conseil de l'homme est appelé conseil des méchants, parce qu'ils se tromperont à tous les coups. Le choix entre le bien et le mal, la sagesse selon Dieu, la connaissance de l'Éternel, ça l'homme en lui-même en est parfaitement incapable. Et Jérémie résume tout cela d'une façon imagée assez extraordinaire. Il compare l'homme en tant que source à une citerne crevassée qui ne retient pas l'eau. Jérémie 2,13. Et dans le pays sec d'Israël, ils creusaient des citernes pour avoir de l'eau, pour arroser les champs pendant les temps de sécheresse ou boire. Mais il y a plein de défauts dans cette source d'eau. L'eau est stagnante, elle est croupie, comme on dit, elle n'est pas bonne à boire. La citerne peut être crevassée, alors l'eau s'échappe. Quand on a besoin, la citerne est vide. Ainsi, Joseph fut jeté par ses frères dans une citerne vide. Le prophète Jérémie, il est jeté pendant le siège de Jérusalem dans une citerne, et elle est vide. Au fond, il y a simplement de la boue. Donc, manifestement, les citernes ne gardaient pas l'eau. Et voilà à quoi ça peut être comparé de se confier dans l'homme. C'est se confier dans une citerne crevassée qui ne retient pas l'eau et qu'on en a besoin. Elle est vide. Ça fait penser à Judas. Quand il est allé, il s'est rendu compte qu'il avait péché, et il est allé voir les anciens, le Sanhédrin, et il leur a dit « J'ai livré un homme innocent », ils lui ont dit « C'est ton problème, c'est ton problème. » Et remarquons aussi que le choix des hommes de se confier dans l'homme, c'est un choix délibéré. Et le revers de la médaille de ce choix, l'autre face de la pièce, c'est de se détourner de l'Éternel. Jérémie 17,5 nous dit que l'homme qui se confie dans l'homme, il détourne son cœur de l'Éternel. Et en Jérémie 2,13, l'Éternel dit de ceux qui se creusent des citernes crevassées, ils m'ont abandonné. Donc en fait, l'homme fait un choix délibéré, c'est celui d'abandonner l'Éternel, de se détourner de lui. Il abandonne Dieu et volontairement, il préfère suivre le conseil des hommes et se confier en eux plutôt que se confier en l'Éternel. Et donc, cette citerne crevassée, comme je disais, cette construction des hommes, au mieux, c'est un réservoir d'eau croupie quand il y a de l'eau dedans, mais elle est le plus souvent défaillante quand on en a besoin parce qu'elle ne retient pas l'eau. Mais en comparaison, une source d'eau vive, elle est toujours disponible. Elle est alimentée par d'immenses réserves d'eau qui sont quelque part au cœur des montagnes. Elle jaillit des rochers, elle est limpide et elle est pure. Je me souviens dans mon enfance de deux images. Ma famille était originaire du nord de la France, un pays de champs, de prairies, et on allait se promener, et il y avait toujours dans ce qu'on appelait les pâtures, dans les pâturages, il y avait des mares, en fait. Ils avaient creusé des mares pour avoir de l'eau, donc des tout petits étangs. L'eau était toujours verte, vaseuse, et on n'avait pas envie d'y aller boire. Mais aussi, on allait en vacances à la montagne. Et là, on faisait des grandes promenades dans la chaleur de l'été, et là, quelle joie c'était de trouver une source. Ces sources d'eau, on ne savait pas d'où elles venaient, mais qui jaillissaient du cœur de la montagne et qui donnaient une eau fraîche, une eau glaciale dans laquelle on pouvait se refroidir dans la chaleur de l'été. Et donc, en contraste avec cette citerne crevassée qu'est l'homme, il y a une seule source digne de confiance, et cette source d'eau vive, c'est l'Éternel. Donc la source d'eau vive, c'est l'Éternel. En Jérémie 2,13, l'Éternel dit de lui-même, « Moi, qui suis une source d'eau vive. » Et en psaume 1,3 et Jérémie 17,8, il est comparé à un courant d'eau. Et donc, cette image de l'eau vive qui abreuve les chrétiens, c'est une image qu'on trouve tout au long de la parole. Et on va regarder pas mal de passages. Et il y en a énormément. Si vous lisez votre Bible et vous avez à l'esprit le terme de la source d'eau vive, vous rendez compte que ça, passez-moi le jeu de mots, ça jaillit de partout. Et donc, on va regarder quelques passages, j'en ai choisi quelques-uns. Et d'abord, psaume 46, verset 5. Passage bien connu, psaume 46, verset 5. Psaume 46, verset 5. Il est un fleuve dont les courants réjouissent la cité de Dieu, le sanctuaire des demeures du Très-Haut. Il est un fleuve dont les courants réjouissent la cité de Dieu, le sanctuaire des demeures du Très-Haut. Et c'est intéressant au passage de noter qu'il n'y a pas de fleuve à Jérusalem. Donc la cité de Dieu, c'est une phrase pour Jérusalem. Il n'y a pas de fleuve à Jérusalem. On a donc ici une image ou une prophétie, ou les deux. Et donc on retrouve cette image, on ne va pas le lire, mais je vais juste le commenter, avec force détail dans Ézéchiel 47. Dans Ézéchiel 47, vous avez la description magnifique d'un fleuve qui sort du seuil du temple, du côté de l'Orient. C'est une rivière aux eaux profondes, poissonneuse, et l'eau de cette rivière, elle assainit la mer morte, et des arbres croissent sur les rivages, et leurs feuillages servent de remède. Et en fait, cette image, elle se trouve presque, j'allais presque dire, mais presque mot pour mot, on va le regarder, en Apocalypse 22, versets 1 et 2. Apocalypse 22, versets 1 et 2. Et il me montra, donc Apocalypse 22, versets 1 et 2, et il me montra un fleuve d'eau de la vie, limpide comme du cristal, qui sortait du trône de Dieu et de l'agneau. Au milieu de la place de la ville et sur les deux bords du fleuve, il y avait un arbre de vie, produisant 12 fois des fruits, rendant son fruit chaque mois, et dont les feuilles servaient à la guérison des nations. Donc on note ici cette expression, le fleuve d'eau de la vie, qui est très proche en fait de la source d'eau vive citée en Jérémie 2,13. Mais c'est dans les paroles même de Jésus que cette source d'eau vive prend tout son sens. On va regarder trois passages dans l'évangile de Jean qui cite donc le thème de la source d'eau vive. Tout d'abord, chapitre 4, lors de la conversation de Jésus avec la femme samaritaine, puis au chapitre 6, dans ce qu'on appelle le discours sur le pain de vie, et enfin au chapitre 7, lors de la fête des tabernacles à Jérusalem. Donc Jean chapitre 4, il faut rappeler l'histoire, Jésus est fatigué, dans la chaleur de la journée, après un long voyage, il est en Samarie, il est auprès d'un puits, et il demande de l'eau à une femme samaritaine, et il lui dit ceci, donc en Jean 4, verset 10, « Si tu connaissais le don de Dieu, et qui est celui qui te dit « Donne-moi à boire », tu lui aurais toi-même demandé à boire, et il t'aurait donné de l'eau vive. » Verset 13, « Quiconque boit de cette eau aura encore soif, donc l'eau du puits. Mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif, et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. » Au chapitre 7, quelques pages plus loin, donc là, pendant cette fête des tabernacles, il utilise un langage similaire. Au verset 37, au milieu du verset, « Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein, comme dit l'Écriture. » Il dit cela de l'Esprit que devaient recevoir ceux qui croiraient en lui, car l'Esprit n'était pas encore, parce que Jésus n'avait pas encore été glorifié. Et enfin, chapitre 6, verset 35, « Et Jésus leur dit, « Je suis le pain de vie. Celui qui vient à moi n'aura point de faim, et celui qui croit en moi n'aura jamais soif. » Donc ça, ce sont des paroles de Jésus. Et puis il y a un très beau passage aussi dans 1 Corinthiens, qui fait le lien entre Jésus et l'Ancien Testament, 1 Corinthiens 10, au verset 4, Paul est en train de parler des Juifs dans le désert, 1 Corinthiens 10, verset 4, et il dit « Ils ont tous bu du même breuvage spirituel, car ils buvaient de l'eau du rocher spirituel qui les suivait, et ce rocher était Christ. » On voit donc que la source d'eau vive dont nous parle ce texte, c'est l'Éternel lui-même. On l'a vu en Jérémie 2, 13. Et on voit qu'elle est aussi associée étroitement à Christ, et en particulier à son Saint-Esprit, qu'il envoie lui-même lors de la Pentecôte. Et cette association donc de l'eau à l'Éternel, elle est confirmée aussi en Jérémie 17,7, où il dit « Béni soit l'homme qui se confie dans l'Éternel et dont l'Éternel est l'espérance. Il est comme un arbre planté près des eaux. Et enfin, cette image, elle est appliquée à la parole de l'Éternel. À la parole de l'Éternel en psaume 1, versets 2 et 3. L'homme qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit, il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau. Donc là, on a la parole de l'Éternel qui est l'eau, qui est la source d'eau vive. Et donc l'Éternel, il est lui-même une source d'eau vive qui est jamais défaillante, dans laquelle nous pouvons puiser en permanence et à laquelle il nous appelle et il nous dit « Vous tous qui avez soif, venez aux eaux ». Et c'est ce qu'a dit Jésus, « Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive ». C'est la personne de Christ lui-même qui prend le soin de nous abreuver. Il le fait en nous donnant son Saint-Esprit, en nous donnant accès à sa parole, pour que nous pouvons méditer jour et nuit, et le Saint-Esprit, il ouvre pour nous la parole, et il nous désaltère. Et on peut aussi aller au Seigneur dans la prière, et son Saint-Esprit nous assiste, intercédant lui-même pour nous par des soupirs inexprimables. C'est donc ça, la source de vie, cette source d'eau vive. Alors, chers frères et sœurs, quelle source voulons-nous choisir dans notre vie? Quelle source voulons-nous choisir dans notre vie? Et nous savons très bien que la tentation est permanente de nous alimenter à la source des hommes. Parce que nous sommes immergés dans le monde, nous vivons dans le monde, nous ne sommes pas des moines, nous sommes dans ce monde et c'est là que nous devons nous trouver. Et nous sommes bombardés en permanence par le conseil des hommes. Bombardés. À la télévision, dans les médias sociaux, dans les discussions avec les collègues incroyants, dans nos familles, pour ceux d'entre nous qui sont dans des familles incroyantes, et en particulier aussi pour les jeunes à l'école, avec cette énorme pression exercée par l'envie d'être accepté par ses camarades, et ils sont tous du monde. On est dans l'ère du politiquement correct, dans l'ère de la pensée unique, la foi chrétienne est de plus en plus marginalisée, méconnue, à contre-courant de la pensée du monde. Et donc nous devons, nous, chrétiens, contrecarrer ces influences, contrecarrer cet effet de la pensée du monde, et donc nous devons passer du temps, comme nous dit le texte, à méditer la parole de Dieu, à lire de la bonne littérature chrétienne, passer du temps dans la prière, pour demander au Seigneur sa sagesse, pour recevoir du Saint-Esprit. Et en un mot, donc, nous devons en permanence aller boire à la source d'eau vive qui est Christ. Et nous n'avons pas d'excuse parce que nous connaissons cette source. Nous savons où elle se trouve. On a donc vu qu'il y a deux sortes de sources spirituelles. Deux sortes de sources spirituelles, soit l'homme, soit l'Éternel. Et on veut voir maintenant qu'il y a dans ces passages deux sortes d'hommes. Deux sortes d'hommes. Là encore, nos textes utilisent un langage très imagé. D'un côté, on a un arbre. Et de l'autre côté, on a de la paille. Donc on voit ça dans le psaume 1, verset 3. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau. Et en Jérémie 17, 8, il est comme un arbre planté près des eaux. Et dans le psaume 1, verset 4, il n'en est pas ainsi des méchants. Ils sont comme la paille que le vent dissipe. Alors, juste en aparté, les méchants. Ce terme, en fait, désigne les incroyants. Hein? On voit par ailleurs qu'il est associé dans les textes qu'on a lus, il est associé aux pécheurs. Donc en fait, le méchant, c'est un pécheur qui n'est pas converti. Et nous sommes tous à la base des méchants. C'est pas un texte qui est en train de nous présenter mieux que les autres en nous-mêmes. Non, nous sommes tous à la base des méchants. Mais ceux qui l'appellent méchants ici, ce sont les pécheurs. Nous sommes tous des pécheurs, mais il y a des pécheurs qui sont convertis, qui ont mis leur confiance dans le Seigneur. Il y en a d'autres qui ne l'ont pas encore fait. Donc quand vous entendez méchants, je dirais presque que ne soyez pas choqué, en particulier si vous n'êtes pas chrétien. La Bible parle de vous comme ça parce que, au fond de vous-même, c'est ce que vous êtes, et au fond de nous-mêmes, c'est ce que nous sommes tous. En nous-mêmes, nous sommes méchants, nous sommes pécheurs. Et donc, le psalmiste et Jérémie font ici la différence entre donc le croyant et le non-croyant. Alors, le croyant, c'est un arbre. Le non-croyant, c'est de la paille. Remarquez tout d'abord que l'arbre et la paille sont deux choses complètement différentes. C'est pas comme s'il disait le croyant est un chêne, et le non-croyant est un sapin. Comme si les chrétiens étaient des gens comme les autres avec un petit quelque chose en plus. Non, le fait d'être chrétien nous donne une nature complètement différente du non-croyant. On était de la paille et on est devenu un arbre. Donc la conversion, c'est une transformation complète. La conversion, c'est une transformation complète ce n'est pas juste une amélioration. Alors regardons la paille. Le mot traduit paille dans cette traduction-là, dans beaucoup d'autres traductions, ils utilisent un concept un peu différent, c'est ce qu'on appelle la balle ou le son. Et donc la balle ou le son, c'est l'écorce en fait qui recouvre le grain de blé. Elle est toute fine, elle est presque invisible. Et en fait, dans le temps, pour la séparer, il faisait l'action de vanner, donc c'est-à-dire qu'il jetait le grain en l'air. Et quand il y avait du vent, le vent emportait le son, et puis le grain qui était plus lourd retombait. Donc c'est comme ça qu'il séparait le grain de cette petite écorce. Et donc cette traduction balle, elle s'accorde bien avec l'idée du psaume 4, qui dit que le vent la dissipe. Vous voyez donc cette idée. On jette les grains en l'air et le vent porte cette toute légère balle. Mais on peut aussi penser à des brins de paille. Hein. Je ne sais pas si je suis certain que beaucoup d'entre vous se sont trouvés sur l'autoroute derrière en été derrière un de ces gros camions qui transportent des ballots de paille et puis on voit plein de petites brindilles là, qui volent. C'est une chose donc pareil, c'est un peu la même idée, une chose légère. Donc cette balle ou cette paille, c'est une chose légère que le vent chasse au loin. On s'en débarrasse, il n'en restera rien. Ça ne produit rien, ça n'a pas de valeur alimentaire, c'est inconsistant, presque invisible. Et donc ces personnes que le texte appelle les méchants, donc, comme je disais, donc les gens qui ne sont pas en Jésus-Christ, les gens qui ne sont pas croyants, eh bien, en fait, le texte nous dit qu'ils n'ont pas de substance. Ils n'ont pas de poids, ils sont dissipés par le vent. Ils sont comme l'herbe décrite en Ésaïe 40 en particulier, mais le thème revient dans d'autres passages. Toute chair est comme l'herbe, et tout son éclat comme la fleur des champs. L'herbe sèche, la fleur tombe, quand le vent de l'Éternel souffle dessus. Une chose éphémère, inconsistante, elle est ici aujourd'hui, et demain elle a disparu, complètement oubliée. C'est une description saisissante et terrible de la vie des hommes et des femmes qui ne connaissent pas Jésus-Christ comme leur sauveur. Et par opposition, le croyant, lui, il est comparé à un arbre. Un arbre qui est planté auprès d'un courant d'eau. D'un côté, la paille. D'un côté, on a la paille et la balle que le vent dissipe. Et de l'autre, on a l'arbre qui est planté, fermement planté auprès d'un courant d'eau. On voit tout de suite la différence. L'arbre, il est solide, il est ferme. Il résiste au vent parce qu'il est planté. Ses racines s'enfoncent profondément dans la terre. L'arbre, il était ici hier, il sera là demain. Certains arbres ont été là des centaines d'années. On dit même qu'il y a peut-être encore à Jérusalem des oliviers que Jésus a vus. Je ne sais pas si c'est vrai. En tout cas, ils voient passer beaucoup de générations. Ils tiennent ferme car ils sont plantés, enracinés. Et le texte en Jérémie 7:8 nous dit que l'arbre, 7:8 nous dit que l'arbre est planté près des eaux et qu'il étend ses racines vers le courant. Il est planté près des eaux, près de la source d'eau vive, et il étend ses racines vers le courant. Le courant, donc, on a vu, c'est Christ, en fait. Et donc, l'arbre, il étend ses racines vers le courant, il nous fait penser à l'homme qui est greffé en Christ. C'est une image que donne la parole. L'homme est greffé en Christ. Une autre image que donne la parole, c'est un sarment, une branche de vigne, qui est attachée au cep. Le cep, c'est Jésus, et qui lui donne sa sève, et qui la nourrit. Et alors, frères et sœurs, et aussi, chers amis qui parmi nous ne connaissaient pas Jésus-Christ, qu'êtes-vous? Qu'êtes-vous? Est-ce que vous êtes de la paille? Ou est-ce que vous êtes un arbre planté? Et est-ce que, comme la paille, votre vie n'a pas d'ancrage, elle est emportée par le vent, là où il l'emmène, incapable de lui résister, sans poids, sans direction, sans consistance? Ou bien êtes-vous un arbre qui est solidement enraciné, qui est prêt à résister au vent? Et vous savez, l'arbre, il n'est pas arrivé là par lui-même, parce que la parole nous dit que l'arbre, il a été planté. Et donc, le chrétien, il est cet arbre planté. Il a été planté par Christ, auprès d'un courant d'eau qui est son Saint-Esprit, et qui l'alimente en permanence. Et si vous connaissez pas Jésus-Christ, comme votre sauveur, vous êtes comme de la paille qui vole au vent. Et la parole de Dieu ne vous dit pas ça par méchanceté, mais elle le dit pour que vous reconnaissiez votre besoin. Je me rappelle d'un temps où moi-même j'étais comme de la paille, sans direction dans la vie, ballotté à tous les vents, n'ayant pas d'idée d'où j'allais. ne m'y intéressant même pas. Mais quand vous mettez votre foi en Christ, il vous plante solidement en lui. Il vous plante solidement en lui, près du courant d'eau, près de la source d'eau vive. Et c'est ce qu'on appelle la nouvelle naissance. Donc on a vu deux sortes de sources, deux sortes d'hommes, et il y a deux sortes de destinées. Deux sortes de destinées. Et donc, deux sortes de destinées aussi bien dans le monde temporel, c'est-à-dire dans ce monde dans lequel nous vivons, mais aussi dans l'éternité. Et donc tout d'abord, on va regarder la destinée du méchant, et d'abord la destinée temporelle du méchant, donc la destinée temporelle de l'incroyant. Et Jérémie 17,6 nous dit « Il est comme un misérable dans le désert, il ne voit point arriver le bonheur, il habite les lieux brûlés du désert, une terre salée et sans habitants. » Alors, ça peut vous paraître étonnant parce que finalement la vie des incroyants peut paraître heureuse, active, bien remplie, combien n'y a-t-il pas de chefs d'entreprise ou de personnages publics, de célébrités, de sportifs, dont on pourrait dire que c'est le cas. Mais en fait, c'est d'ailleurs un constat que fait un des psalmistes dans le psaume 73, il dit « Ainsi sont les méchants, toujours heureux, ils amassent des richesses », verset 12. Mais en réalité, leur vie, nous dit la parole, elle est comparable à un désert, à la vie dans un désert. La vérité de cette vie, c'est qu'elle est totalement infructueuse, vide et désespérée. Ne vous laissez pas tromper par les images que vous voyez dans les médias. Alors notre société, une réflexion un peu sur notre société contemporaine, elle a perdu presque entièrement toutes les structures solides qui étaient héritées de siècles de christianisme. Le christianisme avait façonné ce pays, il a façonné l'Europe. Et ces structures qui étaient héritées, elles protégeaient les hommes, même les incroyants. Alors, quand je parle de structure, je parle de la famille, ou le respect de l'autorité, ou le respect des 10 commandements dans ce pays qui, depuis longtemps, depuis la fin du 19e siècle, c'est un pays qui est officiellement athée. Les dirigeants sont athées, et pourtant, ils respectaient les 10 commandements. La morale publique était façonnée, malgré tout, par les 10 commandements. Il y avait même, malgré l'athéisme de beaucoup, une certaine crainte de Dieu. Mais tout ça est en train de, vraiment, dans la génération dans laquelle nous vivons, a grandement disparu. C'est une perte de repère qui a mis à nu le désespoir de l'homme sans Dieu. Mariage brisé, enfants élevés dans des familles dysfonctionnelles, recherche du bonheur dans des plaisirs éphémères, grossiers, futiles, des citernes crevassées qui ne retiennent pas l'eau. Et c'est le résultat du péché. Il promet plein de bonnes choses, du plaisir, du bonheur, mais il déçoit toujours et il laisse derrière lui une terre dévastée, salée, brûlée et vide, bonne à rien. Et je parlais des célébrités, quand vous observez la vie des célébrités du sport ou des médias, c'est une illustration de ces choses. Elles atteignent des niveaux de réputation, de célébrité, de richesse très élevés, mais leurs vies sont souvent marquées par des scandales en tout genre. Elles sont comme de la paille emportée par le vent, elles n'ont pas de racines. Et c'est souvent désespérant à regarder. Et c'est le thème du livre de l'Ecclésiaste. Le livre de l'Ecclésiaste, c'est un livre en fait où l'auteur regarde la vie de l'homme sans Dieu. Regarde la vie de l'homme, qu'est-ce que l'homme peut espérer dans la vie sans Dieu? Ce qu'il appelle la vie sous le soleil. Et ses conclusions sont très démoralisante, car il dit « vanité, des vanités, tout est vanité ». Vanité, ça vient de l'adjectif « vain » en français, « v-a-i-n », qui veut dire « futile, inutile, décevant, dérisoire ». Donc une vie sans Dieu, elle est inutile, décevante, futile et dérisoire. Et c'est ce que dit dans l'Ecclésiaste, par exemple, il dit « j'ai vu tout ce qui se fait sous le soleil, et voilà ». Tout est vanité et tourment d'esprit. La destinée temporelle de l'incroyant. Jérémie 17,6 nous dit qu'il ne voit point arriver le bonheur. Alors ça peut être compris de deux façons. La traduction seconde 21 dit « Il ne voit rien venir de bon ». Mais il y a d'autres traductions. Donc ça veut dire c'est donc le sens d'une malédiction. Il n'y a rien de bon qui va lui arriver. Rien de bon qui arrive aux pécheurs et c'est vrai. Mais la traduction Martin, par exemple, une Bible plus ancienne, qui dit il ne s'apercevra point quand le bien sera venu. Ah, il y a une nuance ici. L'idée, c'est que le pécheur est aveugle à la venue du bien. L'idée, c'est qu'en fait, le bien peut se présenter à lui, mais il ne le voit pas. Christ lui est proposé, mais il l'ignore. Et c'est malheureusement trop souvent la réaction des incroyants quand nous leur présentons l'Évangile. Cela n'éveille en eux aucun intérêt, souvent de l'ennui et parfois de l'hostilité, du rejet. Et donc voilà pour la destinée temporelle du méchant, elle est une vie futile, vaine et dérisoire. Mais le texte nous parle aussi de la destinée éternelle du méchant, de façon très, très austère, puisqu'il nous dit au verset 5 que les méchants ne résistent pas au jour du jugement, et ni les pécheurs dans l'assemblée des justes. Et au verset 6 que la voix des pécheurs mène à la ruine. Et encore une fois, le psaume 73 nous éclaire sur la destinée éternel des méchants. Dans ce psaume, le psalmiste exprime sa frustration, comme je le disais, devant l'apparente réussite temporelle des incroyants, leur prospérité, leur arrogance, etc. Mais il dit, et vous pouvez voir avec moi verset 17, psaume 73, verset 17. Donc il est donc dans cet état de perplexité. Et au verset 17, il dit, jusqu'au moment où je suis entré dans les sanctuaires de Dieu, et où j'ai prêté attention au sort final des méchants. Oui, tu les places sur un terrain glissant, tu les fais tomber dans la ruine, et voilà, en un instant, ils sont détruits, ils ont disparu, anéantis par l'épouvante. Donc on doit bien comprendre que le jugement de Dieu envers les pécheurs est inéluctable. Il peut se produire dans cette vie, par des calamités, par des revers de fortune, mais se produira inéluctablement dans la vie éternelle, lors du jugement dernier. Au jour du jugement, donc là je cite en fait le livre de l'Apocalypse, au jour du jugement, les morts grands et petits se tiendront debout devant le trône de Dieu, des livres seront ouverts et les morts seront jugés selon leurs œuvres, d'après ce qui est écrit dans ces livres, et quiconque ne sera pas trouvé écrit dans le livre de vie sera jeté dans les temps de feu, qui est la seconde mort. Et donc la Bible, elle appelle également ce lieu ténèbres du dehors, fournaise ardente, abîme ou puits sans fond, ruine éternelle. Et en un mot, c'est ce qu'on appelle l'enfer. Et donc nos textes nous disent que des méchants, que leur voix mène à la ruine, qui ne résisteront pas au jour du jugement, ils seront mis sur un terrain glissant, ils tomberont dans un précipice, c'est une traduction de la ruine, ils seront détruits, anéantis par l'épouvante. Tout ça est, comme je le disais, particulièrement austère et lugubre. Mais nous devons méditer sur ces textes. Nous devons méditer sur ces textes parce que nous serons tous, sans exception, dans cette salle, présents au jour du jugement dernier. Tous sans exception, que nous soyons croyants ou incroyants. Et nous tiendrons debout devant le trône de Dieu. Est-ce que nous réalisons bien cela? Chacun d'entre nous ici, sans exception, se tiendra debout devant le grand trône blanc, et ça devrait nous faire réfléchir. Et comme dit l'apôtre Jacques, ça devrait transformer nos rires en pleurs. Le grand évangéliste, ou pasteur évangélique Jonathan Edwards, un homme du XVIIIe siècle aux États-Unis, avait écrit quand il était jeune 70 résolutions. 70 résolutions pour sa vie. Il n'avait pas 20 ans. Et la résolution 9 dit ceci: pensez beaucoup, en de nombreuses occasions, à ma propre mort et aux circonstances qui l'accompagneront. Quand je suis dans la souffrance, pensez aux douleurs des martyrs et de l'enfer. Et c'est une pratique qui est très bénéfique, en premier lieu pour les chrétiens, parce qu'elle nous rappelle de quoi le Seigneur nous a sauvés en mourant pour nous sur la croix. Elle nous pousse aussi à nous détourner de cette voie qui mène à ce lieu. Parce que parfois, tout chrétien que nous soyons, nous surprenons à marcher en fait sur la voie qui mène à la perdition, parce que nous sommes influencés par la pensée du monde, par le conseil des méchants. Mais méditer sur les tourments de l'enfer, pour ceux qui ne connaissent pas le Seigneur, c'est profondément bénéfique. Profondément bénéfique. Et le Seigneur est bon de nous mettre cela devant les yeux. Il faut que les incroyants, si vous ne connaissez pas le Seigneur Jésus-Christ, méditez sur ces choses. Demandez à des croyants de vous montrer les passages de la parole qui parlent de ça. Et détournez-vous de cet enfer et tournez-vous vers Christ pour le salut, vers la source d'eau vive. Et notre devoir, pour ceux qui prêchent la parole, et le devoir de tous les chrétiens, c'est de, à vous qui ne croyez pas, c'est de ne pas vous cacher la vérité, mais de vous mettre en garde sur l'issue du chemin sur lequel vous marchez. Cette issue, c'est la destruction éternelle, c'est une éternité de tourment, c'est une chose indescriptible, on ne sait pas bien ce que ça veut dire, parce que c'est au-delà de notre imagination. Mais c'est terrible. Mais vous pouvez y échapper, vous pouvez parfaitement y échapper si vous vous repentez de votre péché et si vous mettez votre confiance en Jésus-Christ pour votre salut, tout simplement. Parce que c'est une chose qui est gratuite, c'est une source d'eau vive qui est gratuite pour tous. Et l'entrée dans cette source, c'est se repentir de son péché et mettre sa confiance en Jésus-Christ, tout simplement. Maintenant, enfin, regardons la destinée de l'homme qui se confie dans l'Éternel, et elle est toute différente. Regardons d'abord sa destinée temporelle, c'est-à-dire dans cette vie sur la terre. Donc le texte du psaume 1 l'a décrit ainsi, il dit « Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau, qui donne son fruit en sa saison et dont le feuillage ne se flétrit point. Tout ce qu'il fait lui réussit. » Et le texte de Jérémie 17,8, assez semblable, dit « Il est comme un arbre planté près des eaux, et qui étend ses racines vers le courant. Il n'aperçoit point la chaleur lorsqu'elle vient, quand elle vient et son feuillage reste vert. Dans l'année de la sécheresse, il n'a point de crainte et ne cesse de porter du fruit. » Donc une chose qui est frappante, c'est que le bonheur de cet homme est indépendant des circonstances. C'est très important, ça. Le bonheur de cet homme est indépendant des circonstances. Parce que si on vous demande qu'est-ce qui donne le bonheur, et à moi le premier, on va parler de la réussite professionnelle, la santé de nos enfants, etc. Non, là, ici, il nous dit, en fait, il ne parle pas de tout ça. Le bonheur de cet homme est indépendant des circonstances. Le psaume 1, verset 1, le déclare « heureux ». Jérémie 17, 7 le déclare béni, mais ça c'est indépendant des circonstances. Et ainsi, quand la chaleur vient, et la sécheresse, qui est une image des calamités qui peuvent nous arriver à tous, eh bien le feuillage ne se flétrit point. Il reste vert et il continue à porter du fruit. Parce qu'il est planté près de la source d'eau vive. Quand vous promenez l'été dans la campagne de notre pays, c'est une image que j'ai à l'esprit. Par une chaude journée, vous regardez les champs. Et vous voyez ces vastes étendues magnifiques de champs de blé, ces vastes étendues jaunes, rôties par le soleil. Puis parfois, au milieu des champs, il y a comme une rivière qui serpente. Et vous le reconnaissez, vous ne voyez pas la rivière, mais vous voyez une rangée d'arbres, un rideau d'arbres verts bien touffus qui protège la rivière. Ils apportent de l'ombre. Et alors que vous supporteriez à peine le soleil au milieu des champs, auprès de la rivière règne la fraîcheur, à cause de l'eau et de l'ombre des arbres. Et les racines des arbres, elles viennent s'alimenter en eau au courant de la rivière, et ainsi les arbres résistent à la chaleur, résistent à la sécheresse. Alors est-ce que notre bonheur est dépendant des circonstances, de la prospérité économique, du succès professionnel, de la santé? Ce sont des questions qui sont très challengeantes, comme on dit, qui nous posent beaucoup de questions nous-mêmes, parce que on n'aime pas quand on a des problèmes. Mais notre bonheur ne doit pas dépendre de la prospérité économique, du succès professionnel ou de la santé. Même si ce sont de bonnes choses, mais ce n'est pas de ça que bonheur doit dépendre. Est-ce que notre bonheur résiste quand vient la sécheresse? Psaume 112, versets 6 et 7, ne tournez pas, mais je le cite pour vous. Il dit cela de l'homme qui craint l'Éternel, il ne chancelle jamais, la mémoire du juste dure toujours, il ne craint point les mauvaises nouvelles. Son cœur est ferme, confiant en l'Éternel. Est-ce que nous craignons les mauvaises nouvelles? Nous ne devrions pas. Regardez le contraste entre ces deux expressions. Il n'aperçoit point la chaleur quand elle vient, Jérémie 17,8. Ça, c'est l'homme, le croyant. Et il ne voit point arriver le bonheur, Jérémie 17,6. Ou comme j'ai dit tout à l'heure, il ne s'apercevra point quand le bien sera venu. Donc d'un côté, l'homme qui se confie dans l'Éternel, il n'aperçoit pas l'adversité quand elle vient, parce qu'il est enraciné en Christ, il est alimenté par la source d'eau vive. Et de l'autre côté, l'homme qui se confie dans l'homme, il n'aperçoit pas la bénédiction quand elle vient, car il est aveugle aux choses de Dieu. Contraste frappant. Et notez encore ce qui est dit de l'homme qui se confie dans l'Éternel. Il donne du fruit en sa saison. Il ne cesse de porter du fruit. Et on sait que le chrétien porte du fruit dans sa vie, et que ce fruit, c'est le fruit de l'esprit. Et donc toujours le fruit de la source d'eau vive. Et il ne cesse d'emporter, même dans l'adversité, car ses racines s'alimentent encore à la source d'eau vive. Et enfin, on veut regarder la destinée éternelle de l'homme qui se confie dans l'Éternel. Et elle est évoquée dans le psaume 1 par cette expression, car l'Éternel connaît la voie des justes, et elle est mise en opposition avec la voie des pécheurs qui mène à la ruine. Et donc on a vu que cette ruine, elle parle de la destinée éternelle des pécheurs. L'Éternel connaît, le texte nous dit que l'Éternel connaît la destinée éternelle du juste. L'homme qui se confie en lui. Le verbe connaître, dans la Bible, c'est pas juste le fait que Dieu ait une information. Dieu sait toute chose. Mais quand il dit que Dieu connaît quelque chose ou connaît quelqu'un, c'est le sens d'une relation intime. Comme le sens de ce mot quand on dit que Adam connut sa femme. Donc quand il dit que l'Éternel connaît la voie des justes, ça ne veut pas simplement dire qu'il est informé à ce sujet, mais ça veut dire qu'il sait quelle est leur destinée. Enfin, ça veut dire qu'il a façonné leur destinée, qu'il est l'auteur de leur destinée, et qu'il garantit son accomplissement à cause de son amour pour les justes. Une très belle phrase, toujours le psaume 73, qui conclut le psaume 73 et qui dit ceci. C'est le psalmiste qui parle à Dieu, il dit « Mais moi, je serai toujours avec toi, tu m'as pris par la main droite, tu me conduiras dans ton conseil, puis tu me recevras dans la gloire. Mais moi, je serai toujours avec toi. » Donc c'est l'homme qui parle, et il parle à Dieu. « Tu m'as pris par la main droite, tu me conduiras dans ton conseil, puis tu me recevras dans la gloire. » Donc vous avez la destinée du juste, sa destinée temporelle, il est guidé par Dieu, Dieu le tient dans sa main droite, il le conduit dans son conseil, et puis la destinée éternelle, puis tu me recevras dans la gloire. Donc en conclusion, je veux parler à deux groupes, tout d'abord ceux qui sont chrétiens, puis ceux qui ne sont pas chrétiens. Et donc, pour ceux d'entre nous qui sont chrétiens, quelques questions auxquelles nous devons réfléchir. Est-ce que nous prenons nos conseils auprès du monde ou auprès de la parole de Dieu? Et je vous pose cette question parce que je sais que moi-même, naturellement, si je me laisse aller, je prendrai mes conseils auprès du monde. Alors, est-ce que vous prenez vos conseils auprès du monde ou auprès de la parole de Dieu? Et est-ce que nous ressemblons à un arbre ou à de la paille? Est-ce que ceux qui nous regardent pourraient nous comparer à de la paille qui est ballottée par le vent ou à un arbre? Est-ce que nous sommes inébranlables devant l'adversité ou est-ce que nous sommes misérables quand vient l'adversité? Et en fait, en un mot, est-ce que nous réalisons que nous sommes un arbre planté auprès d'un courant d'eau? La Bible nous dit souvent de réaliser, c'est ce qui est dit par Paul dans le Romains chapitre 6, de reconnaître. Est-ce que nous réalisons, est-ce que nous nous rappelons que nous sommes un arbre planté auprès d'un courant d'eau? Si nous sommes chrétiens et si nous avons mis notre confiance en Jésus-Christ, c'est ce que nous sommes, un arbre planté auprès d'un courant d'eau. N'ayons pas de doute. Si parfois nous nous comportons comme de la paille, détournons-nous de ce chemin. Rappelons-nous, je suis un arbre planté auprès d'un courant d'eau et ce courant d'eau, c'est Christ et c'est Christ qui m'a planté. C'est Christ lui-même qui m'a planté. Alors, réalisons ces choses, et vivons en conséquence. Ne vivons pas comme de la paille, suivant le conseil des méchants, même si la tentation est là. Et ce n'est pas surprenant qu'elle le soit, mais nous devons résister à cette tentation. Maintenant, si vous n'êtes pas chrétien, vous ne connaissez pas Jésus-Christ, vous n'avez pas mis votre confiance en lui, vous en avez entendu parler, mais pour vous, c'est encore quelque chose de vague. Ne croyez pas, comme je l'ai dit, que cette parole de Dieu a pour but de se moquer de vous. Par ces textes, Dieu il vous met en garde, il vous appelle à réfléchir à votre vie, à votre péché, à ses conséquences dans cette vie, et à ses conséquences éternelles au jugement dernier. Qui arrivera? Nous nous tiendrons tous devant le trône de Dieu, chacun d'entre nous, dans le futur. Dans notre corps, les personnes que nous sommes, sera devant le trône de Dieu. Et donc le texte qu'on a étudié, si vous n'êtes pas chrétien, il vous montre, en fait, vous en rendez peut-être pas compte, mais vous êtes dans un désert spirituel. Vous êtes assoiffé. Il vous montre que vous êtes comme de la paille ballottée à tous les vents. Et ces textes, chaleureusement, vous invitent à vous tourner vers Jésus-Christ pour le salut, car il est une source d'eau vive. Et je voudrais conclure en lisant des paroles qui sont extraites d'un psaume et qui parlent de vous qui n'êtes pas chrétien. Très belles paroles. Qui parlent de personnes qui ne sont pas chrétiennes et qui sont devenues chrétiennes. Écoutez ce qu'elles disent. Qu'ainsi disent les rachetés de l'Éternel, ceux qu'il a rachetés de la main de l'oppresseur et qu'il a rassemblés des pays d'Orient et d'Occident, de l'Aquilon et du Midi. Écoutez bien maintenant. Ils erraient par le désert, dans un chemin solitaire. Ils ne trouvaient point de ville habitable. Ils étaient affamés et altérés, ça veut dire assoiffés. Leur âme défaillait en eux. Donc ça, c'est la description de l'homme sans Dieu, de l'homme qui ne connaît pas Jésus-Christ. Et souvent, c'est une description, je dirais, réelle de ces personnes. Et le texte continue ainsi, et il dit « Alors, ils ont crié à l'Éternel dans leur détresse, et il les a délivrés de leurs angoisses. Il les a conduits par le droit chemin pour arriver à une ville habitable. Qu'ils célèbrent l'Éternel pour sa bonté, pour ses merveilles envers les fils de l'homme. » Donc ça, c'est un extrait du psaume 107. Ces paroles, si ces paroles vous décrivent, faites ce qu'elles disent. Criez à l'Éternel. Criez à l'Éternel, il vous rachètera de votre péché et vous délivrera de votre détresse. Amen.